Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière, sera Hakim El-Karoui, qui a écrit L'avenir d'une exception aux éditions Flammarion. Alors, la semaine dernière, Hakim El-Karoui nous avait expliqué ce qui, d'après lui, justifiait la nécessité de la mise en place de formes de protectionnisme. Il développait notamment la thèse de l'émergence d'une troisième mondialisation qui avait pour conséquence que le libre-échange ne pouvait plus fonctionner si l'on considérait qu'il était censé être bénéfique à tous. Nous avions déjà vu les arguments que les partisans du libre-échange pouvaient opposer aux partisans du protectionnisme, mais nous n'avions pas encore vu tout ce qui pouvait s'opposer à l'émergence pleine et entière de cette notion de protectionnisme nécessaire dans le débat public. C'est donc ce que je lui ai dit pour introduire cette deuxième émission. Donc la semaine dernière, vous nous préconisiez un néo-protectionnisme européen. On avait essayé de voir ce qui pourrait s'y opposer, mais je pense qu'on n'avait pas fait le tour. Juste à la fin, vous aviez dit, est-ce que les salariés allemands vont se révolter à un moment ou à un autre? Mais on pourrait se poser la question aussi pour la France. À la limite, la révolte, elle a déjà eu lieu, mais il n'y a toujours pas de réponse au niveau politique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape du pied.
Bon, écoutez, on est à quelques semaines des élections où ça peut changer d'ici là, mais tout le monde nous prédit, enfin aujourd'hui, tout le monde va vers une victoire de Sarkozy. Assez large, etc. Je pense que les commentateurs ont quand même appris à se méfier hein, des résultats, enfin des sondages préélectoraux. Moi, je pense que ça peut continuer. Hein. On peut continuer à ne pas entendre ce que disent les gens. Alors, la révolte, elle est clairement dans les urnes depuis. Enfin, elle s'est matérialisée en 2002, 95 d'une certaine manière, en 97 d'une certaine manière, on pouvait considérer qu'elle était déjà là. Hein. En 2007, il n'y a aucune raison qu'elle ne se matérialise pas d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que après, c'est un peu de la cuisine, mais 2007, l'architecture aujourd'hui de l'élection, c'est Sarkozy qui, en fait, est une addition de Chirac, Madeleine, Boutin, 2002. Et ça faisait 25% des voix. Royal, c'est une addition de Jospin, Chevènement, Taubira. C'était 24% des voix. Le troisième, Le Pen, il avait fait 16-8, il avait contre lui Maigret, aujourd'hui il a contre lui De Villiers. Maigret avait pris 2 points, je pense que De Villiers ne fera pas plus. Donc il est structurellement à 17. Donc les grands partis se disent, 25, 24, 17, en fait on a la paix, on n'a pas de risque d'avoir un Le Pen au deuxième tour qui vient nous embêter et qui du coup va nous forcer à poser ou à réfléchir à des solutions jusqu'à présent interdites. Donc il y a une forme de, en fait il y a eu un retour à la tranquillité politique qui moi me semble extrêmement dangereuse pour des raisons purement arithmétiques, sachant qu'en fait 2002 avait été aussi créé moins par une montée de Le Pen que par l'émiettement des candidatures, et en fait la montée n'était pas à l'extrême droite, elle était à l'extrême gauche, puisque l'extrême gauche avait fait 8 points de plus, ce qui était absolument considérable et ce qui était clairement un rejet de Jospin qui était considéré comme pas à gauche. Donc aujourd'hui on peut considérer, enfin, quand on voit le positionnement de Le Pen, quand il dit qu'il est au centre-droit, il a un discours qui est devenu du centre-droit, hein, Sarkozy a des déclarations qui sont clairement plus anti-immigrés que lui, sauf qu'il a son fonds de commerce xénophobe, etc. Donc il fait une campagne extrêmement habile, où il est crédible en partisan, enfin en crypto-fasciste, quoi, enfin, pas fasciste, mais en tout cas vraiment clairement xénophobe, et où il réussit à incarner l'antisystème, ni de droite, ni de gauche, etc. Donc, normalement, il y a tout pour qu'il continue à monter. Bayrou fait exactement, fait la même analyse que lui. Alors lui, il n'est pas sur la xénophobie, mais il est exactement sur l'antisystème, avec un programme qui, par contre, reste archi-conforme. Donc, Bayrou, lui aussi, a une probabilité de chance de monter l'effet 7 en 2002, qui est relativement importante, mais d'une certaine manière, on peut considérer que peut-être que les deux partis majoritaires peuvent s'en tirer, et que donc il ne va rien se passer. Alors après, il y a plusieurs solutions. Soit il y a une cohabitation le coup d'après pour que les Français disent « Attendez, on n'a pas élu un président parce qu'on croyait en lui, on a élu un président parce que finalement, on n'avait pas le choix. Et on n'a pas réussi à être suffisamment nombreux pour dire « Stop, arrêtez les frais ». Donc on peut imaginer une cohabitation, on peut imaginer aussi un blocage total du pays très rapidement après l'élection, même si je pense que si c'est Sarkozy, il va y avoir un effet de les gens vont être un peu groggy, et donc il va faire passer 3-4 mesures très très vite, la limitation du droit de grève, éventuellement une évolution du contrat de travail, etc. Et puis, comme lui, il joue un peu les uns contre les autres, il dira il faut une autorité très très forte pour permettre la cohésion du pays. Et ça, c'est clairement un des problèmes aujourd'hui de la France. Mais fondamentalement, dans ce cas de figure-là, personne ne répond aux besoins de protection des salariés, encore une fois, des milieux populaires, mais aujourd'hui la classe moyenne, avec cette évolution extraordinaire de 2005, d'une alliance politique entre la classe moyenne et les milieux populaires contre leur élite, puisque tous les partis avaient appelé à voter oui, et on se rend compte qu'une majorité de la classe moyenne du privé, une majorité de la classe moyenne du public a voté contre, pour des raisons complètement différentes, contre le traité, et a voté en fait avec les milieux populaires qui, eux, de toute façon, ont voté non déjà à Maastricht. Donc voilà, on peut continuer à ne pas entendre. Après, on peut aussi considérer qu'on est en train de changer de système politique. Aristote disait qu'après la démocratie, il y a l'oligarchie. Peut-être qu'Aristote avait raison.
Dissous des hommes, et on est toujours en compagnie de Hakim El Karoui, qui a écrit L'avenir d'une exception aux éditions Flammarion. Et les petits bruits que vous entendez de temps en temps, qui vous font sursauter, et ben c'est l'espèce de petit ordinateur portable minuscule qu'il avait à côté de lui, qui émet des ondes. Sale bête.
Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que finalement, peu d'hommes politiques seraient prompts, on pourrait dire, à reprendre la thématique du néoprotectionnisme. Il semblerait que les médias eux-mêmes aient quelques tendances à vilipender cette thématique. En tout cas, moi, quand j'ai écouté M. Raffarin parler à la radio, le journaliste en face de France Inter, on sentait les gros yeux qu'il faisait, les interrogations étonnées qu'il pouvait avoir.
Oui, oui. Alors, sur les politiques, j'ai pas été aussi catégorique. Si on regarde 6 mois en arrière et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, tous les politiques sérieux parlent de préférence européenne, qui est une forme de protectionnisme. Donc le débat a quand même largement évolué. L'autre chose qui se passe, on en reparlera peut-être, c'est le débat aux États-Unis. Les démocrates ont gagné l'élection de mid-term avec deux thèmes, le refus ou la contestation de ce qui se passe en Irak et le protectionnisme commercial. Donc passe aux États-Unis est important quand même dans les débats européen. Donc le fait qu'il y a un sujet aux États-Unis, ça permet aussi d'expliquer aux politiques français qu'il y a peut-être un sujet en Europe. Parce qu'après tout, les systèmes économiques ne sont pas si différents que ça. Et moi, je l'ai vu avec des rencontres privées. Il y a vraiment un intérêt très important des politiques pour cette idée. Sauf qu'en fait, personne n'a vraiment franchi le pas. Tout le monde en parle maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Mais personne ne dit « ça doit être central ». Et voilà ce qu'il faut faire, et personne n'a pris le thème en étendard, ce que je trouve dommage, mais bon, après tout, c'est le débat aussi. Là où il y a plus de difficultés, c'est avec les médias. Parce que la différence entre les journalistes et les politiques, c'est que les politiques, il faut qu'ils aient quelque chose à raconter à leurs électeurs, qui leur disent « mon salaire n'augmente pas, ma boîte va délocaliser, je vois de plus en plus de produits qui viennent de loin et qui sont largement aussi compétitifs que les miens, même quand il y a une forte valeur ajoutée, etc. » Journalistes, on parle souvent des salariés protégés, exposés, etc. Les protégés, c'est évidemment les fonctionnaires qui sont des nantis, c'est bien connu. Je pense que là, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Le jour où il y aura un journaliste chinois qui travaillera au Monde ou qui pourra en tout cas contester la place d'un journaliste du Monde parce qu'il sera aussi bon que lui, il sera payé 10 fois moins cher, je pense que peut-être les journalistes du Monde se rendront compte que le monde a changé. Jusqu'à présent, ils ne s'en rendent pas compte parce que ce sont les premiers protégés. D'ailleurs, les politiques aussi sont assez protégés de ce point de vue à la concurrence internationale, ils ne connaissent pas. Il y a même aux élections européennes, il peut y avoir des élus non français, européens. Bon, enfin, en gros, ça ne marche pas. Donc, c'est deux exemples. Un peu caricaturaux, mais en même temps, c'est eux qui tiennent une bonne partie du débat. Donc, de cette manière, ils ne le vivent pas. Et je crois qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui vivent ces sujets-là, puis ceux qui les regardent. Bon, alors, dans les médias, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, il y a probablement une forme d'inculture. Les médias répètent je crois qu'il y a un vrai problème de classe, pas forcément de lutte des classes, mais il y a une organisation où il y a un politiquement correct qui est européen, qui se traduit en France par plusieurs aspects. Il faut cracher sur la France en disant qu'on est vraiment fini, considérer que les Français sont ringards, considérer qu'ils sont incapables de s'adapter à l'économie de marché, quand même la quatrième économie du monde, que nos grandes entreprises ont fait des évolutions assez extraordinaires, etc. Et parmi ça, il y a dans le dogme le mot protectionnisme, enfin plutôt le libre-échange. D'ailleurs, c'est intéressant, mais quand on parle de protectionnisme en France, on dit toujours la tentation protectionniste. C'est vraiment un syntagme figé qui dit bien que c'est un tabou, soit sexuel, soit religieux. C'est un péché aujourd'hui, penser au protectionnisme. Encore une fois, il s'agit juste d'une régulation commerciale. Hein. Enfin, ça me fait sourire. Hein. Alors après, on peut utiliser d'autres mots pour être moins vigoureux. On peut parler de souveraineté, on peut parler de régulation, etc. Mais enfin bon, le protectionnisme, c'est ça ce que ça veut dire. Donc oui, il y a un problème avec les médias. Est-ce qu'il est insurmontable? Je crois pas. À partir du moment où on explique assez sereinement ce que ça veut dire, bon, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, enfin ça c'est normal, sachant que derrière il y a une vraie vision de la société. Hein. Mais je crois d'abord que le problème c'est mettre le thème dans le débat pour qu'on puisse en parler sereinement. Et c'est vrai que c'est très difficile. Mais c'est pour ça que des gens comme Emmanuel Todd sont importants, parce qu'ils ont une vraie crédibilité, une vraie frappe médiatique. Qu'ils peuvent amener certains à se poser une question qui jusqu'à présent est interdite.
Justement, quand on parle de protectionnisme, ça veut dire quoi effectivement? On met des barbelés tout autour des frontières, enfin, c'est aussi horrible que ça?
Alors, en fait, il y a trois types de protectionnisme, trois modes d'application. Puisque le protectionnisme, c'est par rapport à des mouvements. Donc, il y a des mouvements commerciaux, il y a des mouvements de capitaux, puis il y a des mouvements des hommes. L'Europe, la France, pratique le protectionnisme migratoire sans aucune vergogne, de façon de plus en plus importante depuis 30 ans maintenant. Bon, et quand on dit bah, vous êtes protectionniste, on dit bah non, jamais nous, libre-échange, non, regardez ce que vous faites en matière de régulation des flux migratoires. Donc on est très très protectionniste en France et en Europe, et on en est très fiers. Bon, je reviendrai, moi je pense que c'est pas là le cœur du sujet, même s'il y a des difficultés et qu'il faut pas nier. Ensuite il y a le protectionnisme financier, qu'on confond souvent avec le protectionnisme commercial. Protectionnisme financier, c'est quand, par exemple, les Américains disent il y a la gestion des ports américains qui peut être achetée par l'Émirat de Dubaï. Surtout pas, c'est dangereux, c'est des Arabes, peut-être des terroristes, c'est notre sécurité nationale, donc non. Ou quand ils disent il y a une entreprise chinoise qui veut racheter une entreprise de pétrole américaine, c'est cassé au Congrès, ils sont très efficaces d'ailleurs, pour mettre des barrières stratégiques. Ça, c'est du protectionnisme financier. On considère qu'il ne faut pas qu'il y ait d'appropriation des moyens des entreprises par des entreprises qui viennent d'autres régions du monde. Bon. Moi, j'y suis très hostile, sauf dans certains secteurs stratégiques. Pour une raison simple, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, et à partir du moment où on investit dans une zone géographique, on apporte du capital, on joue avec les mêmes règles du jeu que les autres, on apporte du travail, et dans l'histoire, après, on peut considérer qu'il y a des rapports de force, mais le protectionnisme tel que je l'envisage, c'est pas de laisser les Chinois dans la difficulté, les empêcher de se développer. Non, c'est tenir compte des nouvelles évolutions et surtout de redonner un petit peu d'espoir au milieu populaire et aux classes moyennes. Donc ce protectionnisme financier, a priori non. Et puis il y a le protectionnisme commercial qui peut prendre des formes assez différentes, qui peut être direct ou indirect. La forme la plus simple, qui me semble plus tout à fait adaptée, c'est de dire bon, on va faire un tarif extérieur commun, donc on va taxer les importations de produits qui sont non européens. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça amène à taxer des produits qui viennent de Norvège, par exemple, ou des États-Unis, sans qu'il y ait de vraies raisons économiques. Et puis, si on dit on fait un tarif sur toutes les importations, ben, on va taxer le pétrole. Une absurdité absolue. Donc, il faut avoir un petit peu de finesse, et une façon d'avoir de la finesse et de bien piloter ça, c'est de faire du contingentement commercial, c'est-à-dire qu'on va dire on autorise l'importation de tant de dizaines de milliers, par exemple, de véhicules, ce qu'on avait fait en Europe dans les années 80 à la demande de Mme Thatcher, hein, 80 et au début des années 90, quand l'automobile britannique était en train de se déliter du fait de la très forte compétitivité de l'automobile japonaise. Ça a permis aux Japonais de venir investir en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ça n'a pas sauvé l'automobile britannique, mais ça a sauvé une partie de l'industrie automobile en Grande-Bretagne, puisque ce qui reste comme industrie automobile en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est les Japonais. Donc le contingentement, c'est une forme intéressante, c'est ce que propose Maurice Allais, hein, qui est prix Nobel d'économie français, le seul vivant, même s'il est très âgé. Une autre forme, c'est de dire, il y a clairement des pratiques favorables au dumping dans certains pays, donc il faut qu'on fasse des taxes anti-dumping, qui là aussi peuvent être très efficaces. Hein. Il y a une taxe, je crois, de 47% sur les vélos chinois, taxe européenne. fait qu'aujourd'hui, il y a 70% de la production de vélos en Europe qui est européenne. Alors, on peut considérer que ce n'est pas la vocation des Européens de construire des vélos, sauf que ça permet aux Européens de continuer à travailler dans l'industrie du vélo. Donc ça, ça a une forme d'efficacité. On peut dire, enfin, une taxe environnementale, la taxe carbone, on parlait Villepin, c'est une forme de protectionnisme environnemental indirect. Après, on peut jouer sur les normes. Les Chinois sont extrêmement bons pour faire des normes chinoises en disant, bah, écoutez, maintenant on a le premier marché, présentement les télécoms, donc vous vous adaptez à nos normes. Et c'est pas nous qui allons nous adapter à vos normes. Pourquoi pas, encore une fois, hein, c'est un vrai rapport de force. Nous, on peut considérer que sur un certain nombre de produits, on met des barrières non tarifaires qui vont faire qu'en fait, il n'y aura qu'en Europe qu'on saura faire ce type de produit. Et donc, on relocalise la production. Donc, vous voyez, il y a des moyens juridiques, des moyens vraiment commerciaux, éventuellement des moyens financiers, qui peuvent permettre de mieux réguler le commerce international. Sachant que l'OMC n'est vraiment pas le bon outil, puisque l'OMC est dans une logique qu'il faut faire le maximum de libre-échange, c'est sa mission dernière, et c'est même sa fin dernière. Donc, il ne faut pas compter sur l'OMC.
Et Sous les Armes, on est toujours en compagnie de Hakim El-Garoui sur Aligre FM, et bien, suite de notre entretien.
On pourrait aussi reprocher à cette vision des choses de faire de l'Europe une espèce de forteresse, qui n'en aurait rien à faire des pays du tiers-monde en particulier.
Oui. Alors ça, c'est évidemment une vraie question. Je pense qu'on peut y répondre assez facilement. D'abord, encore une fois, aujourd'hui, on a fait de l'Europe une forteresse migratoire. Et personne ne revendique, personne ne dit qu'il faut arrêter avec ça. Enfin, il y a une belle âme, hein. Mais ça choque pas. Alors que moi, je trouve que sur le plan moral, c'est beaucoup plus gênant. Ensuite, si je prends encore l'exemple de la Chine, hein. La Chine aujourd'hui a un modèle économique et politique qui est fondé sur une double réalité, un parti unique autoritaire qui contrôle l'ensemble du système, un système économique qui est tourné complètement vers l'exportation et qui fait sa croissance uniquement par l'exportation. Enfin, je caricature, je schématise, hein, mais en gros c'est ça. On peut dire aux Chinois, écoutez, vous respectez pas les règles de l'économie de marché, vous respectez pas la propriété intellectuelle, et puis en fait, votre réalité, votre nom, votre etc., fait que le système des avantages comparatifs ne fonctionne plus. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Et pour ça, vous avez quand même une solution. Quand on produit, il faut vendre. Et pour vendre, il faut qu'il y ait un marché. Le marché des Chinois aujourd'hui, c'est les pays développés. Et l'Afrique. Parce que les Chinois sont en train de faire énormément de mal en Afrique. On peut très bien leur dire, écoutez, on va rééquilibrer les échanges en taxant d'une façon ou d'une autre vos produits, mais en échange, d'abord vous allez développer votre marché intérieur, parce que vous allez jouer un petit peu mieux les règles du jeu du capitalisme, protéger vos salariés à vous, qui vont du coup épargner un peu moins, consommer plus, et donc développer votre marché intérieur. Et ensuite, on peut aller jusqu'à proposer des solutions où les taxes, le montant des taxes collectées en Europe serait reversé aux Chinois, alors soit en fonction de leur évolution sociale, de leur évolution environnementale, soit de leur capacité à acheter des produits européens, mais pour que il n'y ait pas la suspicion que nous on est égoïste et on empêche votre développement à vous. Et puis enfin, aujourd'hui on fait du protectionnisme en matière agricole. C'est pour ça qu'il y a encore une agriculture en Europe. Alors, le libre-échange n'est pas la cause de tous les maux ou de la perte d'emploi, etc. Le progrès technique a une part très importante la baisse, enfin dans l'augmentation du chômage, etc. Bon. Et ça se voit très bien en matière agricole, puisqu'on a protégé l'agriculture, ça n'a pas du tout nué à sa productivité, contrairement à ce que disent tous les partisans du libre-échange. Le protectionnisme ne nuit pas à la productivité quand on a une certaine taille de marché. Par contre, le progrès technique a fait que l'emploi a considérablement baissé. Bon, mais aujourd'hui, il y a des arbitrages à faire. On ferme nos frontières agricoles pour protéger les agriculteurs. On peut très bien ouvrir, dans certains cas, nos frontières agricoles pour permettre des importations de produits qui viennent de pays très pauvres. On peut aussi fermer nos frontières industrielles pour permettre à l'industrie française et européenne de continuer à se développer. Et là aussi, c'est pas une fin en soi, de permettre la migration des salariés. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je crois que la question, c'est le temps. Aujourd'hui, ça va trop vite. Il me semble que c'est ce que disent les Français. Et soit on les entend, soit on les entend pas. Mais si on les entend pas, ça risque de mal finir.
Eh bien, bien, c'était des sons et des hommes en compagnie de Hakim El Karoui. Je vous redonne le titre du livre vraiment remarquable qu'il a écrit. Ça s'appelle L'avenir d'une exception. C'est aux éditions Flammarion. Je vous rappelle aussi le site qu'il anime. C'est www.protectionnisme.eu. Eh bien, normalement, je lui avais dit, on va faire deux émissions. Une sur ce thème, une sur l'autre thème. Et puis voilà, dans le feu de l'action, on a débordé. Et puis, il avait plus de choses encore à dire que je ne l'espérais. Et bien du coup, on a fait une troisième émission. Peut-être un petit peu bizarre, vous verrez, parce que c'était dans la suite de l'entretien, mais il va introduire une notion absolument passionnante, en tous les cas moi je trouve, sur l'inégalité protectrice qui justifie justement la mondialisation libérale. Vous verrez, c'est passionnant. Donc, je ne peux que vous inviter non seulement à lire son livre, mais en plus de ça, à écouter la troisième émission de Dessous avec Hakim El Karoui. Voilà, à la semaine prochaine.